Ceci est une émission de radio.
Nous interrompons notre émission pour un message urgent.
Je le répète, ceci est une émission de radio.
99.1.
I feel a vibration.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que je disais déjà?
I feel it.
Tout de suite, monsieur.
Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur HDR, le mix des cultures, et vous avez sacrément d'être avec nous jusqu'à 21h pour Ton Libre. Et oui, maintenant Ton Libre, c'est le lundi soir de 20h à 21h, tous les 15 jours, et jusqu'au mois de juin, nous allons parler de démocratie. Il y a 15 jours, nous abordions ce sujet avec un professeur de droit constitutionnel de l'Université de Rouen, histoire de poser les bases. On est revenu sur quelques définitions. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la République? Quelles sont les attentes des citoyens? Est-ce que les politiques sont en phase avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, en ce début d'année 2016? Bref, un vaste sujet à décortiquer. Et nous sommes passés du milieu des universitaires pour nous intéresser aux citoyens de l'agglomération rouennaise, de la métropole rouennaise, qui eux aussi s'interrogent sur cette question de la démocratie, de sa place, comment on vit en démocratie, peut-être même comment vivre la démocratie. Et donc, on en parle jusqu'à 21h. Avec mes invités, il est temps que je vous les présente. Ils sont en face de moi. Il y a Florent Lecoq. Alors, hop, non, j'avais oublié d'appuyer sur les boutons. Et bah, voilà, c'est
bonjour
ça.
À tous.
Bonjour Florent. Et puis, Sébastien Bonnet.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, également avec moi en studio, Émilien qui est là.
Salut Rebecca, salut à tous.
Comment vas-tu?
Eh bien, écoute, très très bien pour cette petite reprise de Ton Libre.
Bah oui, en début d'année.
On ne m'avait pas encore entendu cette année, alors voilà, c'est
voilà, c'est ça, on retrouve ton agréable voix avec nous en studio. Et pour cette émission, comme à l'accoutumée, tu es parti faire un micro-trottoir.
Oui, voilà, je suis allé à la rencontre des Rouennais pour leur poser un peu la question de justement de qu'est-ce qu'ils entendent par démocratie, qu'est-ce qu'elle serait, eux, leur souhait par rapport à cette démocratie. Mm-hmm. Voilà, et puis si tu veux bien envoyer le tout petit son.
Allez, on l'envoie
ouais,
maintenant.
Oui, le tout petit son, jusqu'à placer son 1.
Je balance.
Ils sont bien, HDR, ils viennent chez nous au Secours Populaire. D'accord. Souvent faire des émissions.
Ils sont assez rigolos, très souvent quand je vais vers les gens, on me congratule par rapport à HDR. HDR, c'est formidable, la programmation musicale est géniale.
Ah, super.
Vous êtes formidable. Donc en fait, on me parle de façon très, très, très ouverte, très agréable, alors c'est toujours un plaisir.
Ah bah oui, bah ouais. Merci pour ce petit clin d'œil, ça fera plaisir à toute l'équipe de la radio, l'équipe de l'association, le conseil d'administration, les salariés et aussi toute la ribambelle de bénévoles qui font vivre tous les jours la radio.
Bien reçu, ça c'est... Et de plus en plus de gens connaissent HDR en fait.
D'accord, ouais, ouais. Très bonne nouvelle, ouais. Très bonne nouvelle. Et puis également avec nous Guillaume, salut Guillaume.
Bonjour Rebecca.
Alors Guillaume, toi aussi c'est le retour sur l'antenne de Ton Libre en ce début d'année 2016, une année prometteuse.
Tout à fait, il fallait revenir un moment, c'est le 1er février, c'est une belle date.
Voilà, exactement, les 1er février, il y a toujours de belles choses qui se passent, qui se lancent en ce début d'année. Alors... Florent et Sébastien, vous êtes avec nous ce soir jusqu'à 21h sur HDR parce que vous organisez un débat qui aura lieu le mercredi 3 février, donc mercredi prochain à 19h15. Ça aura lieu à Faites-le vous-même, 192 rue Audrebec. Vous organisez un café-débat sur le thème « Que signifie vivre en démocratie ?» C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. En fait, pour en dire plus, on a voulu faire ce débat citoyen parce que pour nous, c'était important que le citoyen reprenne le débat, se réapproprie la politique. Mm-hmm. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'était de s'interroger vraiment sur la définition que les citoyens voyaient sur la démocratie. Parce que mm-hmm. finalement, c'est quelque chose d'assez large et personnel. Chacun peut avoir sa propre opinion dessus. Et on a voulu, avec Sébastien, faire ça, qui est peut-être novateur, parce mm-hmm. que c'est, finalement, il y a assez peu d'endroits où on peut discuter de ce genre de thématiques. Et on a bien envie de voir ce qui va ressortir de ça en faisant un débat.
Alors, Sébastien, si vous organisez ensemble ce débat, vous avez d'ailleurs un troisième acolyte qui travaille sur ce sujet, c'est que vous faites partie du mouvement Alternatiba. Les auditeurs HDR doivent se souvenir du village qui avait eu lieu dans le quartier Pasteur le 4 octobre, les 3 et 4 octobre derniers. Et c'est de là qu'est partie cette idée.
Oui, oui, tout à fait. Donc, au sein d'Alternatiba, nous avons créé une commission, hein, démocratie. Et donc, par ce biais, nous avons considéré que pour répondre aux enjeux climatiques, il fallait se poser la question de la démocratie, faire le lien avec la démocratie. Voilà, donc nous avons... par ce biais, créer plusieurs débats autour de ce sujet. Et maintenant, on voudrait poursuivre la discussion. Mmh.
Alors justement, cette commission démocratie au sein du mouvement Alternatiba, comment elle fonctionnait? C'était ouvert à toute personne? C'était quoi le principe?
Bah, en fait, c'était assez large parce qu'on s'était interrogé sur plusieurs choses. On s'était intéressé aussi à ça, qu'est-ce que c'était la démocratie. On s'était posé sur plusieurs choses, notamment même la démocratie au sein de l'entreprise avec les SCOP.
Mm-hmm. Donc les SCOP, sociétés coopératives.
Coopératives, voilà, c'est mm-hmm. ça. Et puis au final, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait invité deux associations, une sur... sur l'entreprise justement qui nous a parlé, qui nous a défini sa définition de la démocratie, également qui nous a parlé des SCOP et puis notamment des relations. On s'était plus axé sur l'entreprise parce que c'était sur les banques en mm-hmm. fait aussi.
Ouais.
Et puis également il y avait le MAN aussi, le MAN qui est le mouvement alternative à la
non-violence.
Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'était vachement intéressant parce que du coup, ils avaient une façon de travailler assez novatrice où on se donnait la parole chacun son tour et on rebondissait sur ce que disaient les autres.
Oui.
Donc nous, c'était resté là-dessus.
D'accord, un format voilà. d'échange ouvert et complètement libre. Alors justement, pour organiser ce débat, donc je le rappelle qui aura lieu mercredi soir 3 février, quelles sont vos espérances? Est-ce que vous attendez d'entendre certaines phrases clés, des mots clés que vous avez déjà en tête? Comment vous concevez? Qu'est-ce que vous attendez? Sébastien.
Oui, donc nous, ce qu'on souhaite justement voir, c'est quelle est justement la pensée des citoyens sur la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour eux, la démocratie? Comment ils se l'imaginent à travers leur vécu, mais aussi par rapport à ce qu'ils en attendent. Mmh. Donc il s'agit bien de voir nos pratiques en tant que citoyens, mais en même temps, est-ce que la démocratie telle qu'on l'imagine correspond à nos pratiques. Donc ça va être intéressant de comparer notre vécu par rapport à la théorie de la démocratie.
Alors donc, justement, vous Sébastien, en tant que citoyen, même si vous organisez ce débat, comment vous répondriez à la question que vous allez poser mercredi? Qu'est-ce que signifie vivre en démocratie?
Voilà, donc pour moi, quand on dit qu'on vit en démocratie, cela signifie que le citoyen est impliqué dans le processus de décision. Hein, démocratie, ça vient du grec, et donc demos le peuple, kratos le pouvoir, donc mmh. le pouvoir au peuple. Mmh. Moi, ce que j'entends par là, c'est que dans une démocratie, le citoyen est forcément impliqué dans les décisions publiques. Mmh. Et ça ne s'arrête pas, justement, le rôle du citoyen ne s'arrête pas aux élections. Mmh. Il y a entre les élections une volonté de participer, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Alors, est-ce qu'on peut dire de tirer de vos propos que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans une démocratie qui soit pleine et entière?
Bah, disons Florent. Qu'on n'est plus dans un régime dit représentatif, où mm-hmm. en effet, on a des représentants qui nous représentent au Parlement, au gouvernement. Mais en fait, ce n'est pas vraiment suffisant parce qu'ils se représentent surtout eux-mêmes. Mm-hmm. Le citoyen, il ne rédige pas ses propres lois. C'est par le biais de représentants. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans une démocratie au sens strict du terme.
On n'est pas dans une démocratie directe,
voilà,
où le citoyen ça. Serait lui-même tiendrait la plume.
Souvent, on dit qu'on est dans une démocratie représentative. Mm-hmm. Mais c'est un peu un non-sens, puisque la démocratie, elle est forcément directe, mm-hmm. puisque notamment CIS parlait justement de du tirage au sort qui était ce qui définissait le mieux la démocratie.
Oui.
Alors que finalement quand on élit des représentants, c'est un régime représentatif.
Oui. Alors est-ce que vous aimeriez avoir un système mixte à la fois représentatif mais complété par des instances qui soient tirées au sort? Certains proposent d'ailleurs que le Sénat devienne une instance complètement citoyenne avec du tirage au sort. C'est vers ça que vous aimeriez...
Oui, je pense que de toute façon, ça est sûrement quelque chose qui viendra, parce qu'on le voit bien, dans tout pays européen proche de nous, comme la Suisse ou l'Italie, où ils ont un régime qui est un petit peu plus proche des citoyens. Mmh. Et puis même en France, hein, sans aller très loin, il y a des villages, notamment Saillant, dans la Drôme, mmh. où aux dernières municipales en 2014, ils ont réussi à faire une participation des citoyens via le tirage au sort, où ils sont chacun dans une commission thématique. Mmh. Ils travaillent tous ensemble et chacun peut apporter à la commune.
Une contribution, Sébastien. Mmh.
Oui, je pense qu'il est important de redéfinir ce qu'on attend des représentants de nos élus. Je pense qu'ils sont avant tout nos serviteurs. Mmh. Il faut se dire qu'il y a un travail de collaboration à construire entre les représentants et les citoyens. Alors ça peut passer par la mise en place de référendums d'initiative citoyenne, ou tout simplement la création de groupes de projets, de conseils participatifs où les élus et avec les citoyens élaborent des décisions. Mmh. Et je pense que c'est vers ça que l'on doit aller. Je crois que le citoyen, les habitants, sont tout à fait capables de réfléchir au bien commun.
Mmh. Est-ce que, Émilien, je ne sais pas si ça appelle une réaction de ta part, alors on écoutera le micro-trottoir un peu plus tard dans l'émission, mais toi, en tant que citoyen, comment tu envisages cette vie en démocratie?
Ouais, vaste question, mais c'est vrai que c'est une question à laquelle je ne m'étais pas vraiment confronté, à vrai dire, avant de faire ce micro-trottoir. Mm-hmm. Moi, j'ai plutôt partie des gens qui font confiance en temps normal aux politiques. Et, voilà, je suis tombé d'ailleurs en préparant un petit peu le reportage sur des chiffres. J'ai vu que vous aviez également des chiffres d'une comment dire...
une association,
non, pas d'une association, mais d'un sondage, oui, merci, qui a été fait
un institut de
sondage, mais qui n'est pas n'importe quel institut de sondage, qui est l'institut Sciences Po,
d'accord.
Voilà, et qui disent que seulement 12% des gens accordent leur confiance au parti politique. Mm-hmm. Ça, c'est un chiffre qui m'a vraiment, vraiment beaucoup étonné, à vrai dire.
Ouais. Il y a également moins de 1% des électeurs qui sont adhérents à un parti politique.
Mmh. Ouais.
Ce qui est très peu.
Qui dénote une très faible, finalement, conscience politique, en fait.
Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une question de conscience politique ou plutôt une crise de confier cette conscience politique à un tiers qui serait le personnel politique aujourd'hui?
Bah, pour moi, c'est un petit peu les deux. Je pense qu'on a effectivement donné trop de pouvoir, je pense, aux politiques. Et du coup, il est plus difficile de s'y intéresser par manque de temps, principalement.
Ouais.
Quand on travaille, quand on a une famille, on n'a pas forcément tout le temps envie de s'intéresser, de se plonger dans les affaires politiques, surtout quand on sait qu'il y a des personnes qui s'en occupent. Donc, je pense que c'est principalement ça. Et puis, effectivement, c'est difficile aussi de se retrouver dans l'offre politique également, parce que c'est assez restreint et assez cloisonné.
C'est quand même un panel assez important en termes d'offres quand même lors des élections, que ce soit quand même de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a une offre qui est quand même assez non négligeable.
Mais c'est vrai que de plus en plus, lorsqu'il y a un scrutin électoral, on voit que la majorité, elle est des voix, elle est non exprimée, et justement parce qu'elle est du côté de l'abstention.
Il y a eu quand même 50% d'abstention aux dernières élections régionales, au premier tour en tout cas. Donc même si effectivement l'offre, elle paraît importante, elle est quand même assez cloisonnée et beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas. Et on a toujours à peu près 4-5% de personnes qui votent blanc également.
Ouais. C'est une véritable réalité, une crise. D'ailleurs, tous les lorsqu'on écoute les médias, etc., il y a ce constat, il est largement partagé. Après, les différences viennent sans doute dans les solutions à y apporter. Et on reviendra, dans quelques instants, on va revenir à des thèmes que vous avez évoqués, référendum, tirage au sort. Et je vous propose que, juste avant, on écoute un morceau choisi par Guillaume. On l'écoute et il nous dira ce que c'était juste après.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me graver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensables, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Voilà, c'était Renaud. Petite chanson qui s'appelle « C'est quand qu'on va où ?» sur la, voilà, justement sur les élections, sur la liberté, sur le besoin de travailler ou pas. Et donc j'espère que je ne vais pas répéter des choses qui ont déjà été dites parce que je n'ai pas de retour de l'émission. Mais je voulais rebondir sur les choses que j'ai réussi à peu près à entendre tout à l'heure. On parlait de tirage au sort aléatoire de représentants. Moi, je suis un grand fan de cette idée. Mais je me pose aussi la question du droit de vote pour tous aussi en ce moment. Parce que voilà, tel qu'il est aujourd'hui, instrumentalisé par beaucoup de médias, par des gens qui sont pas éduqués, je parle de nous tous, hein, c'est pas, je parle de personnes en particulier, mais la politique, les représentants, c'est pas enseigné en fait à l'école. Ça arrive jamais alors qu'on est tous, on est tous concernés par la chose. C'est comme l'alimentation, c'est des choses qui sont quotidiennes mais qui sont jamais enseignées à l'école. Donc voilà, je pose une question. Je viendrai sans doute mercredi pour prolonger le débat à Faites-le vous-même. Mais je me pose cette question, est-ce que finalement aujourd'hui, que tout le monde vote, est-ce que c'est vraiment une vraie démocratie ?
Et donc ça amène à la question de l'éducation, tu l'as dit, et même d'éducation populaire en général. C'est sans doute un axe de travail important, déjà pour peut-être que pour partager plus largement un constat, que des personnes qui peuvent être éloignées de la chose publique puissent être interpellées, y réfléchir, et cette éducation populaire. Alors, je pense que le débat de mercredi soir, ça sera un espace aussi d'éducation populaire, mais comment déployer aussi ça pour que chaque citoyen français soit au fait de ces questions et sensible à cette problématique.
Oui, oui.
Sébastien.
Tout à fait d'accord sur l'importance de l'éducation et notamment d'apprendre aux enfants dans les écoles, dans les familles, à discuter, à débattre, à donner son point de vue, à être d'accord, pas d'accord. Je pense que ça, c'est un travail que l'on doit faire avec les enfants. Et la démocratie, c'est un apprentissage qui commence dès le plus jeune âge. Je voudrais aussi réagir à ce qui a été dit sur la démocratie, le droit de vote. La démocratie, elle ne peut pas se limiter justement au droit de vote. Hein, car quand on revient à cette définition de la démocratie, qui est le pouvoir qui est donné au peuple, c'est selon Rousseau, par exemple, hein, le philosophe Rousseau, qui parle de démocratie, il dit dans ce cas-là, les citoyens votent leur loi. Et je pense que il ne s'agit pas uniquement d'élire des représentants, des candidats qui vont penser à notre place, qui vont voter à notre place nos lois. Là, on n'est plus dans une démocratie directe, mais il s'agit de que les citoyens votent eux-mêmes leurs lois. Mmh. Et je donnerai cet exemple, par exemple, de la Suisse, avec le référendum d'initiative citoyenne, où quand les citoyens suisses recueillent 100 000 signatures, ils peuvent soumettre à référendum une loi. Donc là, elle vient directement des citoyens. Je pense que c'est ça qui me paraît intéressant dans le référendum d'initiative citoyenne.
Alors parlons justement un peu du référendum. En France, le référendum est un outil qui a été largement décrédibilisé en 2005 et que depuis, il a du mal à réinvestir le champ de la prise de décision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en 2016, la France est mûre pour à la fois remettre le référendum sur le devant de la scène comme étant un véritable outil démocratique ?
Alors oui,
Sébastien.
Je pense que ça évolue et je voudrais citer cet exemple de la ville de Grenoble. Mm-hmm. Hein, c'est tout récent, en 2016, hein, janvier 2016. Toute pétition valable qui récoltera au moins 2000 signatures sera soumise au vote du conseil municipal. Hein, donc mm-hmm. C'est la ville de Grenoble, 160 000 habitants. Et donc si la pétition... le conseil municipal est d'accord avec la pétition, il décide alors de l'adopter. Mmh. Hein? Dans ce cas, il est inutile de faire appel à une votation citoyenne. Dans le cas où le conseil municipal est mitigé ou contre la pétition, celle-ci sera alors soumise à la votation citoyenne et cette pétition devra atteindre 20 000 voix favorables pour être adoptée par la majorité. Mmh. 20 000 voix, ça correspond au score de la majorité pendant les élections mmh. municipales. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution qui existe dans les communes.
Oui.
Et je voudrais citer aussi, par exemple, l'association Article 3, qui justement souhaite que le référendum dans la Constitution soit d'initiative citoyenne. Effectivement, dans la Constitution, il n'est pas d'initiative citoyenne, il est à l'initiative du gouvernement. Mmh. Et je pense qu'il faut reconnaître dans la Constitution, donc réécrire l'article 3 de la Constitution en rajoutant l'initiative citoyenne au mot référendum.
Alors s'il faut une réforme de la Constitution, c'est peut-être le moment, vu que la réforme constitutionnelle est sur le plan de travail des élus, blague mise à part. Est-ce que la question du référendum et donc de l'avis de la majorité Est-ce que c'est ça l'alpha et l'oméga de la démocratie ? Parce qu'on sait que la majorité ne va pas forcément dans le sens de l'histoire. Quand on repense par exemple à l'abolition de la peine de mort, les sondages en France, les sondages juste avant, globalement, disaient que la population était contre. Et donc finalement, on voit aussi que la démocratie représentative et donc les élus ont aussi vocation à être capables d'anticiper vers le sens de l'histoire, des choix de société que la majorité exprimée par un référendum n'aurait peut-être pas. Florent, comment...
C'est tout le problème du référendum, c'est que souvent c'est des questions où il faut répondre par oui ou par non, et souvent c'est un peu pour le gouvernement ou contre le gouvernement. Donc ça permet pas d'avoir un très bon avis du peuple, je trouve. Donc c'est peut-être un peu compliqué de se limiter qu'au référendum.
Alors là, je l'envisage plutôt comme étant l'un des outils pour un peu revivifier cette démocratie. Mais c'est vrai qu'une des missions premières peut-être des élus, c'est d'être en capacité d'anticiper sur des choix de société important. Par exemple, il y a quelques années, la loi sur le mariage pour tous, s'il y avait eu un référendum, qui sait quelle en aurait été l'issue ? Moi, en tant que citoyenne, mon avis était à 200% pour cette nouvelle législation, mais voilà. Est-ce que le référendum aurait été dans ce sens ? Sébastien.
Je pense que dans une démocratie, il faut accepter parfois de... que ces idées ne soient pas appliquées. Parfois, elles le sont. Donc, ça fait partie de la démocratie. Je pense que le référendum est un élément, est un pouvoir qui peut être donné aux citoyens, y compris pour s'opposer aux décisions qui sont prises quand elles vont dans le mauvais sens. Par exemple, en Italie, il faut savoir que les citoyens peuvent s'opposer à des décisions. Il y a 500 000 pétitions de recueillies, les citoyens peuvent s'opposer à une décision. Par exemple, en Italie, ils se sont opposés à la relance du nucléaire. Ouais. Ils se sont opposés à la privatisation de l'eau. Donc, on voit bien que sur des enjeux quand même qui sont très importants, le référendum a véritablement une utilité. Par rapport au référendum également, la question se pose, est-ce que toutes les questions doivent être mises au référendum ? Ça, c'est une vraie question.
Tout à fait.
Ouais. Là, il y a un sujet de discussion à avoir entre nous sur est-ce que tout doit être mis au référendum ou pas.
D'accord. Alors, je vous propose, Émilien, que peut-être nous nous rendions dans les rues de Rouen, sur les quais plus précisément, je crois.
Oui, tout à fait. Et justement, je pense qu'à faire écho, ça va nourrir aussi un peu le débat. Vous allez pouvoir réagir par rapport à ce qui s'est dit, aux remarques qui se sont faites.
On écoute.
Qu'est-ce qui illustre le mieux pour vous la notion de démocratie ? Est-ce que c'est plutôt la question du droit de vote, la question des libertés, notamment liberté de la presse en général, ou bien l'engagement citoyen avant tout ?
L'engagement citoyen. Oui. Pour nous, les femmes, le droit de vote, parce que ils ne sont pas si anciens que ça, donc...
Ça va. Parce que le droit de vote, s'il n'y a pas la liberté de la presse, il n'y a pas l'information, donc le droit de vote...
Et puis la question, c'est vrai aussi que ça suppose aussi que les citoyens s'engagent, parce que si on laisse faire en haut, les élus en haut, sans que...
Je pense qu'à mon avis, les trois sont...
Trois sociables.
Le tout, le droit de vote. En premier, moi, je pense que, l'engagement citoyen, certes. Vous m'avez dit aussi la liberté de la presse, mais ça, c'est fondamental. Et aussi la liberté d'association, le droit de grève. C'est un des fondements de la démocratie, me semble-t-il, dans les pays où il n'y a pas de... droit de grève, pas de démocratie.
Combat avec des défenseurs.
Un sondage récemment de Sciences Po qui montre que 88% des gens déclarent que les hommes politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
On est d'accord.
C'est vrai.
À l'unanimité.
D'accord. Et à votre avis, pour quelle raison ? Est-ce qu'il y a un dégoût des politiques en général ?
Une déception. Droite, gauche, on ne voit pas beaucoup de changements. Voilà. Bon, enfin, nous, on est d'un âge de retraité, mais bon, pour les jeunes, chômage perdure. Et puis,
on a peur que ce ne soit pas la politique qui puisse gérer un pays maintenant.
Il mène une politique qu'en vue des élections et d'être élu. C'est bien un problème.
D'accord. Ouais.
C'est-à-dire que l'opinion est manipulée et en fonction de cette opinion manipulée, effectivement, ils prennent des décisions en fonction de cette opinion manipulée. Voilà. Le sondage en étant un moyen.
Ou démagogique. C'est-à-dire, sans que les gens aient eu les moyens de bien...